La chanson de Roland. Livre quatrième. Le désastre. 1. Les héros décimés. Mélancolie de Roland. Les Francs de France avaient perdu leurs armes. Restaient pourtant 400 épées nues. On va, frappant sur les casques luisants. Dieu, que de fronts fendus par le milieu, que de haubères rompus et mis en pièces, on tranche tout, et pieds, et poings, et têtes. Les mécréants s'écrient désespérés. Ah, ces Français, comme ils nous défigurent. Défendons-nous, ou forcés de mourir. Le roi Marsile a entendu leurs plaintes. Il en frémit. Et s'écrie avec rage, « Terre des Francs, Mahomet te détruise puisque ta race a confondu la mienne et m'a ravi tant et tant de cités que tient ton roi à la barbe chenue. Il a conquis la Pouille et la Calabre, Constantinople et la Saxe peuplée. Plutôt mourir que fuir encore nous-mêmes. Suce aux Français, qu'ils soient exterminés. Si Roland meurt, Charles en perdra la vie. Si Roland vit, notre mort est certaine. » Les Sarrasins vont, frappant de leurs lances sur les écus et les casques flambants. Fer et acier, de partout s'entrechoquent, et vers le ciel envoient mille étincelles. Partout on voit tomber sang et cervelle. Roland, au cœur, en a bien pesant deuil. Voyant mourir de si bons capitaines, il se souvient de la terre de France et du bon roi Charlemagne, son oncle, et le chagrin, bon gré mal gré, l'étreint. Il est pourtant en plein dans la mêlée et sans répit brandit sa Durandal, fend les haubères, met en morceaux les casques, tranche les corps et les poings et les têtes et fait tomber les païens par dizaines, eux qui croyaient être si bons guerriers. De son côté, Olivier, intrépide, sur les païens fait assaut de forts coups. Il a tiré du fourreau haute claire. Or, Durandal, il n'est meilleure épée. La tient au poing et bravement se bat. Le sang vermeil jusqu'au bras lui dégoûte. « Dieu, dit Roland, que voilà un vrai brave !» Ah, noble ami, si loyal et si preux, voici le jour où devra prendre fin cette amitié qui nous liait tous deux. Voici le jour où l'un quittera l'autre. Notre empereur ne nous reverra plus. En douce France, oh, quel sera le deuil! Il n'est français qui pour nous ne priera. Dans toute église, oraisons seront faites. En paradis sera logée notre âme. Olivier court à travers la mêlée pour chevaucher à côté de Roland. L'un dit à l'autre, « Ami, viens par ici. S'il faut mourir, du moins mourons ensemble. » Il fait beau voir Roland et Olivier de leurs épées effrappées et taillées. Près d'eux, Turpin sème les coups de lance. Combien de gens moururent de leurs mains? Le nombre en est consigné dans les chartes. La geste dit plus de 4 milliers. Dans 4 chocs, tout prospère aux Français. Mais le 5e eut une issue terrible. France y perdit tous ses bons chevaliers, hormis 60 à qui le ciel fit grâce. Certes, ils mourront, mais ils se vendront cher. 2. La querelle des deux amis. Le preux Roland voit cette immense perte. Lors, appelant son ami Olivier, « Cher compagnon, pour Dieu, qu'il vous protège, voyez partout ces preux gisant à terre. Plaignons, hélas, la douce et belle France qui va rester veuve de tels barons. Roi bien-aimé, que n'êtes-vous ici? Cher Olivier, mon frère, comment faire? Par quel moyen lui mander des nouvelles? Je ne sais pas, murmura Olivier, plutôt mourir qu'en courir des honneurs. Ah, dit Roland, je vais sonner du cor. Charles, en chemin, l'ouïra retentir, et les Français reviendront, je vous jure. Mais, Olivier, ce serait grande honte, et le reproche irait à vos parents. Toute leur vie, ils auraient à rougir. Quand j'en parlais, vous ne le fîtes pas. Vous le ferez sans mon gré maintenant. Puis, pouvez-vous corner avec vigueur, ayant déjà les deux bras tout sanglants? Oui, dit Roland, j'ai donné de fiers coups. Ah, reprit-il, trop forte est la bataille. Je vais corner. Le roi Charles entendra. Vous savez bien que ce n'est pas d'un brave, dit Olivier. Quand je vous en priais, vous n'avez pas à m'y daigner le faire. Et cependant, si Charles était ici, nous n'aurions pas subi pareil dommage. Ceux de là-bas ne sont pas à blâmer. Il ajouta, « Par cette mienne barbe, si je revois haut de ma gentille sœur, vous ne l'aurez jamais pour votre femme. » Roland répond, « Pourquoi cette colère? Mais, Olivier, à vous la faute, ami. Vaillance veut bon sens et non folie. Plus que fureur vaut la sage mesure. Quel mal a fait votre témérité? Ces Français morts le sont par votre faute. Charles de nous n'aura plus de service. Il serait là, lui, si vous m'eussiez cru et nous aurions gagné cette bataille. Pris ou tué serait le roi Marsile. Vous fûtes preux, mais c'est pour notre perte. Et plus n'aura votre aide Charlemagne, ce roi si grand, que, jusqu'au jugement, on ne verra jamais homme pareil. C'est bien cruel. Vous y mourrez, Roland, et sur la France en jaillira la honte. Puis ici meurt notre amitié loyale. Avant ce soir, nous serons séparés. Roland l'entend et son cœur s'attendrit. Ils s'aiment bien et, l'un pour l'autre, ils pleurent. 3. Les appels du cor. Comme Olivier cherchait noise à Roland, Turpin avait entendu la dispute. Piquant des deux de ses éperons d'or, il les aborde et se met à gronder. « Sire Roland, et vous, sire Olivier, veuillez, pour Dieu, ne pas vous quereller. Votre olifant ne peut plus nous sauver. C'est bon pourtant que vous sonniez du cor. Que le roi vienne, il pourra nous venger. Et les païens n'auront pas guère retour. Quand nos Français auront mis pied à terre et nous verront morts et coupés en pièces, ils nous prendront sur des chevaux de somme, en douce France, allongés dans des bières. Et là, pleurez avec deuil et pitié, puis mis sous terre au parvis des moutiers, nous dormirons. Ni loups, ni porcs, ni chiens de notre chair ne feront leur pâture. Vous dites bien, sire, répond Roland. Roland met donc l'olifant à ses lèvres, la juste ferme, et sonne à plein poumon. Hauts sont les monts, et le son va très loin. L'écho répond à plus de 30 lieues. Charles l'entend, ses compagnons l'entendent. Ah, dit le roi, nos gens livrent bataille. Mais Ganelon parle à l'encontre et dit, d'une autre bouche on dirait, c'est mensonge. Avec effort, grande peine et douleur, le preux Roland sonne son cor d'ivoire. Et de sa bouche a jailli le sang clair, et de son front la tempe s'est rompue. Mais combien loin porte le son du cor? Charles l'entend qui passe au défilé. Ney l'entend, tous les Français l'entendent. Oui, dit le roi, c'est le corps de Roland. Il n'en sonna jamais qu'à la bataille. Ganelon dit « La bataille, allons donc. Vous, un vieillard, tout fleuri et tout blanc, par tel propos, vous semblez un enfant. Ignorez-vous tout l'orgueil de Roland ? On est surpris que Dieu le souffre tant. N'a-t-il pas pris Nople sans votre aveu ? Les Sarrasins sortirent de la ville pour résister au bon vassal Roland. De son épée, le tranchant les tua. Et puis Roland, pour qu'il n'y parût rien, fit à grand eau laver le pré sanglant. Il va cornant tout le jour pour un lièvre. Sans doute il rit et joue avec ses pères. Qui sous le ciel l'oserait provoquer ? Chevauchez donc, pourquoi vous arrêter ? La grande terre est bien loin devant nous. » Le preux Roland a la bouche sanglante, et de son front les tempes sont rompues. Il corne encore avec peine et douleur. Charles l'entend. Tous les Français l'entendent. « Ah !» dit le roi, « ce corps à longue haleine. Roland d'Inem, à coup sûr, est en peine. On a bataille en mon âme et conscience. Traître est celui qui veut donner le change. Sire, armez-vous, criez le cri de France et secourez votre noble maison. N'oyez-vous pas la plainte de Roland ?» 4. En route pour secourir Roland. L'empereur roi fait sonner tous ses corps. Francs, pieds à terre, on s'arme avec aubert, aume luisant, épées à garde d'or, riches écus, grandes et fortes lances, égons fanons blancs et bleus et vermeils. Puis les barons, montés sur leurs chevaux, vont au galop le long des défilés. Ils vont, disant chacun à son voisin, « Puissions-nous voir Roland vivant encore ? Quels rudes coups nous frapperons ensemble ? Mais à quoi bon ? Ils seront là trop tard. » Le soir est clair, on dirait le plein jour, et au soleil les armures reluisent. Aumes, aubert, écus, pins à fleurs, lances pointues et gonfanons dorés dardent au loin de beaux rayons de flammes. L'empereur roi chevauche avec colère. Tout angoissé et dolent sont les cœurs. Pas un Français qui durement ne pleure, pas un qui n'ait grande peur pour Roland. Cependant, Charles a fait arrêter Gannes et l'a livré aux gens de sa cuisine. Ayant mandé le maître queue, Bégon, « Gardez-moi bien, a-t-il dit, ce félon qui a trahi et vendu ma maison. » Bégon le prend et déchaîne à ses trousses 100 marmitons, des meilleurs et des pires, qui, poil sur poil, lui arrache la barbe. Chacun le bat de 4 coups de poing, puis fait jouer le bâton et la verge. Autour du cou, on lui passe une chaîne. Et, mis au fer, comme serait un ours, il est jeté sur un cheval de charge. C'est leur jouet qu'ils devront rendre à Charles. Hauts sont les monts, et ténébreux et grands, profonds les veaux, rapides les torrents. À l'olifant, tous les clairons répondent, qui vont sonnant et derrière et devant. L'empereur roi chevauche avec furie. Les Français sont dolents et courroucés. Il n'en est pas qui ne pleure et lamente. Il n'en est pas qui ne prie pour Roland. Qu'ils vivent au moins jusqu'à ce qu'ils arrivent, quand ils seront sur le champ de bataille. Ah ! Comme ils vont bien frapper tous ensemble. Mais à quoi bon ? C'est en vain qu'ils s'empressent. Ils sont trop loin. Ils seront là trop tard. Charles chevauche avec emportement. Sur sa cuirasse on doit sa barbe blanche. Les preux de France à franc étrier galopent. Tous sont dolents, tous ont la rage au cœur. là-bas, Roland tient tête aux Sarrasins. Roland se bat. Eux ne sont pas là-bas. Restera-t-il une âme qui réchappe si par malheur Roland tombe blessé? Dieu, près de lui restent seuls 60 hommes. Mais ils sont tels que roi ni capitaine n'eut meilleure preuve jamais à son service. 5. Le vrai chevalier. Jetant les yeux sur les monts, sur les landes, Roland ne voit que France étendue mort. Et il les pleure en noble chevalier. Seigneur baron, Dieu ait pitié de vous. Qu'en paradis ils reçoivent vos âmes, qu'en sainte fleur il leur donne repos. Non, je ne vis jamais meilleur guerrier. Combien longtemps vous m'avez tous servi. Quel grand pays vous conquîtes à Charles. Ah, devrait-il pour tel mot vous nourrir? Terre de France, bien doux pays vous êtes. Mais aujourd'hui, quel terrible désastre vient vous ravir tant d'hommes de haut prix. Leur triste mort fait de vous un désert. Malheur à moi, car c'est de par ma faute, baron français, que je vous vois mourir. Je ne vous puis ni sauver ni défendre. Que Dieu vous aide, il ne trompa jamais. Frère Olivier, je ne vous faudrai pas. Vous me verrez succomber avec vous. Je meurs de deuil si leur fer ne me tue. Allons, amis, frappons de nouveaux coups. Le preux Roland rentre dans la mêlée. L'épée au poing, il va frappant en brave, partageant d'eux le preux faldron du puits, et après lui 24 Sarrasins, les mieux prisés de tous les mécréants. Homme jamais ne prit telle revanche. Comme les cerfs s'enfuient devant les chiens, les mécréants s'enfuient devant Roland. Turpin lui dit, « Vous allez vraiment bien. Telle valeur sied à un chevalier, sur bon cheval, portant de bonnes armes. Qu'il soit ainsi fort et fier en bataille. Il ne vaut pas autrement 3 deniers, et doit aller, moine, dans un moutier le jour durant, pour nos péchés prier. » Roland répond, « Frappez, pas de quartier. » Les chevaliers renouvellent leurs coups, mais des chrétiens bien grandes pertes et faites. 6. La lutte désespérée, Marsil en fuite. Quand il n'attend ni merci ni quartier, l'homme a main rude et se défend à mort. Aussi les Francs en fier lion combattent. Marsil vient avec l'air d'un baron sur son cheval qu'il appelle Guénion. Piquant des deux, il va frapper Beuvon, noble seigneur de Beaune et de Dijon. Brise l'écu, du haubert rompt les mailles, et là-bas, mort, sans plus d'autre façon. Terrible, il tue Ivor avec Yvon, et puis encore Girard de Roussillon. Le preux Roland n'était pas loin de là. « Damné païen, dit-il, Dieu te maudisse, toi qui, à tort, me tues mes compagnons. Tu le paieras avant de nous quitter, et va savoir le nom de mon épée. » Alors il donne un vrai coup de baron, et d'un clin d'œil tranche au roi la main droite. Puis, de son fils, de Jurfaleux le blond, il prend la tête, et les païens s'écrient « Mahom, à l'aide tous nos dieux. Ah, vengez-nous de Charles et des félons lâchés par lui sur la terre d'Espagne. Ils mourront tous plutôt qu'ils ne fuiront. La peur les tient. Sauve qui peut, crie-t-il, sauve qui peut. Et ils fuient par milliers. Qu'on les rappelle, ils ne reviendront pas. Comme ces gens s'enfuient le roi Marsile, à qui Roland a tranché son poing droit, et qui, à terre à jeter son écu. Il a le cœur tout dolent et colère d'avoir perdu la victoire et son fils. Piquant des deux, il court à toute bride, chercher abri dans son pays d'Espagne. Ils sont 20 000 en fuite avec leur roi. Nul jamais plus n'affrontera la France. L'un dit à l'autre, il a vaincu Roland. 7. Le calife et ses 50 000 noirs entrent en scène. Mais à quoi bon? Si Marsile est en fuite, il a laissé son oncle, le calife, qui tient Carthage, Alferne, Garmalie et l'Éthiopie, une terre maudite. Il a sous lui des gens de race noire, au nez très gros, aux oreilles très larges. Ils étaient bien plus de 50 000 qui chevauchaient, fiers et pleins de colère, et qui jetaient le cri d'armes païen. « Ah !» dit Roland, « c'est l'heure du martyr. Nous n'avons plus que peu d'instants à vivre, mais honte à qui ne se vend chèrement. Frappez, Seigneur, de vos épées fourbies. Disputez bien et vos morts et vos vies. Ne faisons pas honnir la douce France. Quand sur ce champ viendra Messire Charles et qu'il verra des païens tel massacre que pour un autre ils sont 15 des leurs, il ne pourra laisser de nous bénir. Lorsque Roland voit cette gent maudite qui sur le corps n'a de blanc que les dents et dont la peau est plus noire que l'encre, il parle ainsi. Je le vois à cette heure, c'est bien certain, nous mourrons aujourd'hui. Frappez, Français, je vais ouvrir la route. Malheur à ceux qui seront en arrière, dit Olivier. Et tous se précipitent. Dès qu'ils ont vu que les Francs sont si peu, les Noirs en ont orgueil et réconfort. Décidément, disent-ils, Charles a tort. Leur grand calife enfourche un cheval roux qu'il aiguillonne avec l'éperon d'or. Sur Olivier, il tombe par derrière. Du blanc au vert, il lui brise les mailles. Et, le pressant, il enfonce sa lance, de part en part, du dos à la poitrine. « Voilà, je crois, dit-il, un coup mortel. Charles vous a joué un mauvais tour. Aurait-il dû vous laisser dans ses gorges ? Il nous fit tort, il ne s'en louera pas. Rien que sur vous, j'ai bien vengé les nôtres. » Olivier sent qu'il est blessé à mort. Tenant au poing son épée d'acier brun, il la brandit et frappe le calife. Voilà tranchée la pointe d'or du haume. Voilà cristaux et pierreries à terre. Voilà fendue la tête jusqu'aux dents. Olivier dit au païen qui choit raide, « Maudit sois-tu, je ne puis dire certes que l'empereur n'ait ici rien perdu. Mais toi, du moins, tu ne pourras jamais, ou à ta femme, ou à quelque autre dame dans ton pays, te vanter d'avoir pris sur l'empereur la valeur d'un denier, ni d'avoir fait dommage à moi ou d'autres. » Puis il s'écrie, « À moi, Roland, à l'aide !» 8. La mort d'Olivier. Olivier sent qu'il est blessé à mort. Ah, s'il pouvait assouvir sa vengeance! Il frappe en preux, au fort de la mêlée, mettant en deux des écus et des lances, des pieds, des poings, des côtes, des épaules. Qu'il aurait vu démembrer les païens, les décimer, jeter l'un mort sur l'autre, d'un bon guerrier aurait le souvenir. Il n'oublie pas la devise de Charles, écrit « Montjoie » d'une voix haute et claire. Puis, appelant son ami et son père, « Ami, dit-il, venez tout près de moi, jour de douleur, il faut nous séparer. » Roland regarde Olivier au visage. Il est pâli, décoloré, livide. le beau sang clair rejaillit de son corps et, par ruisseaux, va arroser la terre. Dieu, dit Roland, que faire, je ne sais. Tant de malheur après un tel courage. Jamais, ami, tu n'auras ton pareil. Ô douce France, ainsi te voilà veuve des bons guerriers qui faisaient ta grandeur. Comme tu es confondue et déchue. Ah, l'empereur va subir grand dommage. Et ce disant, il perd la connaissance. Voilà Roland, pâmé sur son cheval, et Olivier mourant de sa blessure. Tant il saignait, ses yeux se sont troublés. Ni loin, ni près, il ne voit rien que vague et ne saurait reconnaître quelqu'un. En tâtonnant, il rencontre Roland, frappe sur lui et fend jusqu'au nasal le haume d'or orné de pierreries. Heureusement, la tête reste sauve. Le preux Roland à ce coup le regarde et d'une voix bien douce et caressante, « Ami, dit-il, l'avez-vous fait exprès ? Je suis Roland, celui qui tant vous aime. Vous ne m'avez nullement défié. » Olivier dit, « Roland, je vous entends, mais sans vous voir. Que Dieu vous voie, ami. Pardonnez-moi de vous avoir frappé. » Roland répond, « Je ne suis point blessé. Je vous pardonne, ici et devant Dieu. » Et, se disant, l'un vers l'autre, ils s'inclinent. Tel est l'amour qui joint ces deux amis. Mais la mort vient, qui va les séparer. Olivier sent l'angoisse de la mort. Son corps froidit, plus d'ouïe, plus de vue, et les deux yeux lui tournent dans la tête. Lâchant la selle, il se prosterne à terre. Il joint les mains. Il tend les bras au ciel. À haute voix, il accuse ses fautes. Il prie que Dieu le mette en paradis, bénisse Charles, et puis la douce France, et puis Roland par-dessus tous les hommes. Le cœur lui manque, et sa tête s'incline. Tout de son long sur le sol, il s'affaisse. Le voilà mort, il n'est plus de ce monde. Roland le pleure et gémit de douleur. Il ne souit jamais douleur plus grande. Quand Roland voit que son ami est mort, le corps raidi, la face contre terre, bien doucement il se prend à gémir. Chers compagnons, votre valeur vous perd. Que dans deux jours nous passâmes ensemble, sans que jamais l'un fît du mal à l'autre. Toi, mort, ami, semez douleur de vivre. Parlant ainsi, le preux s'évanouit sur son cheval qu'on nomme Veillantif. Mais, retenu aux étriers d'Orphin, il ne peut choir où que son corps incline. 9. Roland et son vassal Gautier. Roland, sitôt qu'il a repris ses sens et s'est remis de cette pâmoison, voit dans son plein la grandeur du désastre. Les Francs sont morts. Il les a tous perdus, excepté deux, l'archevêque et Gautier. Gautier revient du haut de la montagne où il tenait contre les Espagnols. Morts sont ces gens, par les païens vaincus. Bon gré, mal gré, le comte a dû s'enfuir. Il court le val, criant « Roland, à l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! Où es-tu, vaillant comte ? Je n'ai jamais eu peur là où tu fus. » « C'est moi, Gautier, qui conquis Maelgu, moi, le neveu de Drouon le Chenu, moi, ton vassal, aimé pour mon courage. Vois, mon auberge démaillé est en pièces, rompu ma lance et percé mon écu. j'ai tout le corps criblé de coups de lance. Mais si je meurs, ma mort leur coûte cher. » Le preux Roland de loin l'a entendu. Il éperonne et galope vers lui. « Sire Gautier, dit le comte Roland, vous avez donc livré rude bataille. Je vous connais comme un vaillant vassal et vous donnais 1000 bons chevaliers. C'étaient mes gens. Je vous les redemande. Rendez-les-moi car j'en ai grand besoin. Vous n'en verrez jamais plus un vivant. Au champ maudit, je les ai laissés morts, répond Gautier. Ils étaient tant là-haut, Arméniens, Turcs et Cananéens, sur leurs chevaux agiles d'Arabie. Ah, nous avons bataillé de tel cœur que pas un d'eux n'en fera venterie. Saignants et morts, ils sont 60 000. Si nous avons perdu là tous nos francs, nos coups d'épée du moins nous ont vengés. Je reparais, mon haubert mis en pièces, et si blessé aux flancs et aux côtés que mon sang clair coule de toutes parts. Je sens mon corps peu à peu défaillir, et je vois bien que ma mort est prochaine. Mais écoutez, Roland, je suis votre homme, et je vous tiens pour mon seigneur et maître. Je vous en prie, ne blâmez pas ma fuite. Loyal Gautier, je ne vous blâme pas, lui dit Roland. Soyez le bienvenu. Et en ces lieux où la mort nous attend, à mes côtés, faites bonne besogne. S'il plaît à Dieu, je ne vous faudrai pas, répond Gautier, et mourrai près de vous. Roland se penche, et coupant en morceaux son juste au corps tout baigné de sueur, bande les plaies que Gautier porte au flanc. 10. 3 Français contre une armée. Roland est plein de douleur et de rage. Il court, frappant dans l'épaisse mêlée. 20 mécréants tombent, tués par lui. Gautier s'applique à ne pas être en reste. Il en tue 6, et Turpin en tue 5. Les païens crient. Ah, les maudits félons! Empêchons-les de repartir vivants. Honte sur qui ne fondra pas sur eux. Honte sur qui les laisserait s'enfuir. Et de partout des clameurs, des huées, et de partout on tombe sur les francs. Le preux Roland est un noble guerrier. Gautier de l'un est un bon chevalier, et l'archevêque est un brave éprouvé. Aucun ne veut faire manque aux deux autres, et chacun frappe au fort de la mêlée. Que de païens, ils sont bien 1000 à pied, et à cheval ils sont 40 000 qui, par ma foi, n'osent plus approcher, lançant de loin lances, épieux pointus, flèches et dards, piques et javelots. Au premier coup, Gautier oxyde sa fesse. Tout est fini. Le vassal de Roland ne pourra plus l'aider de son épée. Pendant qu'il râle et rend le dernier souffle, des souvenirs lui remontent au cœur. Son œil mi-clos revoit la douce France, sa femme aimée, ses chers petits-enfants. Il est navré pensant qu'il meurt, hélas, et meurt sans voir les ennemis en fuite. Quant à Turpin, son écu est percé, brisé son aume et sanglante sa tête. Il a le corps blessé par 4 lances qui ont rompu son haubert démaillé, et son cheval s'abat, tué sous lui. Quelle pitié! L'archevêque est à terre. Lorsque Turpin se sent jeté à terre, le corps atteint de 4 coups de lance, il se redresse en un instant. Le brave cherche des yeux Roland et court à lui. Roland, dit-il, je ne suis pas vaincu. Jamais vivant bon vassal ne se rend. Il met au clair son épée d'acier brun, nommée Almas, et fond dans la mêlée, où, sans répit, il frappe mille coups. Ainsi l'a dit Charlemagne, bon juge. Turpin de Reims ne fit grâce à personne, et l'empereur trouva autour de lui 400 morts, les uns coupés en deux, d'autres percés, d'autres décapités. C'est rapporté dans la geste et compté par un témoin pour qui Dieu fit miracle. Ce narrateur est le baron Saint-Gilles. Il l'écrivit dans le Moutier de l'An. Qui ne le sait est ignorant des choses. 11. L'approche de Charlemagne et la débandade des Noirs. Le preux Roland se bat en gentilhomme, mais tout suant et tout chaud est son corps. Puis dans la tête il a mal et douleur, car en cornant il s'est rompu les tempes. Encore veut-il voir si Charles viendra. Il prend son corps et faiblement en sonne. Charles l'entend. Il s'arrête et écoute. « Seigneur, dit-il, tout va bien mal pour nous. Nous allons perdre aujourd'hui mon neveu. Les faibles sons qu'il tire de son corps marquent qu'il n'a que peu d'instants à vivre. Pour être à temps pressé, vos destriers, faites sonner tous vos clairons ensemble. Lors, les clairons, qui sont 60 000, sonnent si haut que les monts en résonnent, et la vallée répond à la montagne. À ce grand bruit, les païens ne rient pas. L'un dit à l'autre, « Ah, voilà Charlemagne, c'est l'empereur, il revient sur ses pas. De ceux de France, on entend les trompettes. Charles arrivant, c'est pour nous la déroute. Roland vivant, c'est la guerre sans fin. C'est notre Espagne envahie et perdue. » Lors, 400 des meilleurs de l'armée, la lance au poing, bien couverts de leur haume, contre Roland s'unissent et s'élancent pour lui livrer le plus terrible assaut. En vérité, le comte a fort à faire. Le preux Roland voit venir l'avalanche. Il en est fier, se sent fort et est prêt. Pas de recul tant qu'il sera vivant. Très fièrement campé, surveillantif, qu'il pique bien de ses éperons d'or, il a fondu sur les masses païennes. Avec lui va l'archevêque Turpin. « Ah, sauvons-nous !» clament les Sarrasins. De ceux de France, on entend les trompettes. « Oyez, amis, l'empereur Charles arrive. Il va venir, le grand roi des Français. » Jamais Roland n'aima les gens couards ou orgueilleux ou de méchants vouloirs. Nul chevalier ne lui plaît s'il n'est brave. Apostrophant l'archevêque Turpin, « Quoi, vous à pied, moi je suis à cheval. En bon ami, je veux faire ici halte. Soit bien, soit mal, tout nous sera commun. Il n'est vivant qui me fit vous laisser. À ces païens, rendons l'assaut ensemble. » Entre vos mains, Alma se fait merveille. Illustrez-la. Vive ma Durandal, aucune épée ne donne si bon coup. Turpin répond. Honte à qui bien ne frappe. Charles revient, qui saura nous venger. Funeste jour, disent les Sarrasins. Jour de malheur, nous sommes nés maudits. Voilà tués nos seigneurs et nos pères. Et voici Charles avec sa grande armée. Oyez des Francs les trompettes qui sonnent, et le grand bruit que fait leur cri, Montjoie. Le preux Roland est de si fier courage, comme de chair n'en saurait triompher. Sans l'aborder, lançons des traits sur lui. Aussitôt, dards et flèches empennées, et pieux pointus, lances et javelots pleuvent de loin sur le bon chevalier. Ils ont troué son écu mis en pièces, ils ont rompu son haubert démaillé. mais dans son corps ils ne l'ont point atteint. Pour Veillantif, en 30 endroits blessés, il tombe mort sous Roland qui le monte. Les Sarrasins pourtant tournent le dos, laissant Roland seul, à pied et debout. Les Sarrasins s'enfuient, la peur au ventre. « Ah, disent-ils, Roland nous a vaincus, et l'empereur va bientôt reparaître. De son armée, écoutez les trompettes. Attendre plus serait vouloir mourir. » 12. La bénédiction des cadavres. Les païens fuient, courroucés, pleins de rage, s'acheminant en hâte vers l'Espagne. Le preux Roland ne saurait les poursuivre. Son destrier Veillantif gît à terre. Bon gré, mal gré, il est resté à pied. Il va aider l'archevêque Turpin. Tranche les là qui retiennent son aume et lui défait son blanc aubert léger. Puis en morceaux coupe son juste au corps pour lui bander ses larges plaies béantes. Contre son cœur il le presse avec force et doucement l'étend sur l'herbe verte. Laure, le priant d'un ton de voix bien tendre, « Ah !» lui dit-il, « donnez-moi le congé, cher gentilhomme. » Et tous ses compagnons, tous tant aimés et tous morts aujourd'hui, ne seront pas laissés à l'abandon. Je veux aller quérir leurs pauvres corps, les reconnaître et vous les apporter, les déposant tout rangés devant vous. Turpin répond : Allez et revenez. Dieu soit béni, le champ est vôtre et mien. Roland, tout seul, court le champ de bataille, fouille la plaine et fouille la montagne. Il trouve Yvon et son ami Ivor, et puis Gérin et son ami Gérier, et puis Otto et le preux Béranger, et puis Samson et le fier Anséis, et puis le vieux Gérard de Roussillon, et puis enfin le Gascon Angelier. L'un après l'autre, il prend les 10 barons. Il les apporte auprès de l'archevêque et les dépose en rang à ses genoux. Turpin ne peut se tenir de pleurer. Levant sa main, il les bénit et dit « Noble baron, vous eûtes du malheur. Où mettez vos âmes? Reposez-y parmi les saintes fleurs, environnées des rayons de sa gloire. Je meurs aussi, et j'en ai grande angoisse. Plus ne verrai le puissant empereur. » Roland repart fouiller le champ funèbre, trouve le corps d'Olivier, son ami. Contre son cœur le serre étroitement, et, comme il peut, retourne à l'archevêque. Sur un écu, côte à côte des autres, bien doucement, il couche le cher mort. Turpin, sur lui, fait le signe de croix. « Je te bénis, dit-il, et je t'absous. » Alors les pleurs et la pitié redoublent. « Beau compagnon, dit Roland, cher ami, qui fut fils du bon comte Régnier, maître et seigneur de la terre de Gênes, vous n'irez plus au champ pour Charlemagne. » Épouvantail de la jambe mécréante et des chrétiens valeureux champions, bénin aux justes et terrible aux méchants, vous fûtes tel que pour frapper grand coup, percer ricu, briser aubers et lances, aux braves gens donner sages conseils, garder les bons et terrasser les traîtres, en nul pays ne fut meilleur baron. Roland voit donc gisant morts les 10 pères et Olivier, qu'il avait tant aimé. À cette vue, il s'attendrit et pleure, et son visage est tout décoloré. Tel est son deuil qu'il ne peut se tenir. Bon gré, mal gré, il tombe évanoui. « Pauvre baron, murmure l'archevêque. 13, la mort de l'archevêque Turpin. Quand Turpin voit Roland s'évanouir, il a douleur plus grande que jamais. Tendant la main, il saisit l'olifant pour s'en servir ainsi que d'une coupe. À Roncevaux se trouve une eau courante. Il veut aller en prendre pour Roland. À petits pas, il s'en va chancelant. Il est si faible, il ne peut avancer. Avec son sang, ses forces sont parties. À peine a-t-il parcouru un arpent, le cœur lui manque et il tombe en avant. Il agonise, étranglé par la mort. Pourtant, Roland reprend la connaissance. Il se redresse. Hélas, quelle douleur! Où qu'il regarde, en amont, en aval, il voit les siens couchés sur l'herbe verte. Et puis là-bas, il aperçoit gisant le saint prélat, représentant de Dieu. Turpin criait, les yeux levés en haut, « Mea culpa, c'est ma faute !» et étendait vers le ciel ses mains jointes, priant que Dieu le prît en paradis. Mort est Turpin, le serviteur de Charles, qui, par grands coups d'épée et beaux sermons, fit aux païens une guerre éternelle. Dieu lui octroie sa bénédiction. Quand Roland voit que l'archevêque est mort, il en éprouve une douleur si forte qu'Olivier seul lui causa plus grand deuil. Il dit des mots à vous fendre le cœur, écrit, oyant les clairons retentir, « Chevauche, Charles, ah, pourquoi tardes-tu ? Ici, les tiens ont peiné et sont morts. » Du moins, Marsile est en pleine déroute. Ils nous pêchèrent. Pour chaque mort français, les Sarrasins en comptent plus de 15. Jamais de nous ne rougiront les nôtres. Le preux Roland voit l'archevêque à terre. Il voit sortir de son corps les entrailles et sur son front bouillonner sa cervelle. Lors, lui croisant ses mains blanches et belles sur la poitrine, entre les deux mamelles, il fait sa plainte à la mode de France. Preux chevalier de très noble lignée, je vous confie au Père Tout-Puissant, le glorieux Seigneur du Paradis. Non, jamais Dieu ni la France n'auront un serviteur de volonté meilleure. Jamais, depuis le vieux temps des apôtres, on n'avait vu de prophète pareil, gardant la loi et ramenant les hommes. Puisse votre âme exempte de douleur du paradis se voir ouvrir les portes. Mort est Turpin, le serviteur de Charles, qui, par combat et belles oraisons, fut en tout temps notre bon champion. Dieu le bénisse et lui donne pardon. 14. Roland prêt à mourir et le Sarrasin qui fait le mort. Roland sent bien qu'il va mourir lui-même, car son cerveau lui sort par les oreilles. À main jointe, il prie Dieu pour ses pères, et le supplie de les prendre en sa gloire. Il songe ensuite à sa propre personne et fait prière à l'ange Gabriel de l'assister près du Père Céleste. Après, voulant demeurer sans reproche, de la main gauche il prend son olifant, de la main droite il prend sa durandale, marche plus loin que la portée d'un arc, entre en Espagne, et va dans un guéret, gravir un tertre où sont, sous deux beaux arbres, quatre perrons qui de marbre sont faits. Près d'un perron, il tombe à la renverse. Voilà Roland, gisant sur l'herbe verte. Il s'est pâmé, la mort est là, qui vient. Hauts sont les monts, et très hauts sont les arbres. Le long du sol luisent quatre perrons, et tout auprès de ses perrons de marbre, le comte gît, pâmé sur l'herbe verte. Un sarrasin est là qui le regarde, faisant le mort, couché sous des cadavres, souillé de sang au corps et au visage. Debout, soudain, il se dresse, il accourt, et beau et fort, tout bouillant de courage, ivre d'orgueil et de mortelle rage, il met la main sur Roland, corps et armes. « Vaincu, crie-t-il, le neveu du roi Charles, et cette épée ira en Arabie. » Mais aussitôt qu'il touche à Durandal, voici Roland qui reprend connaissance. Roland sent bien qu'on lui prend son épée. Il ouvre l'œil et ne dit que ce mot. « À mon escient, tu n'es pas un des nôtres. » Avec son corps qu'il entendait garder, il fend le casque au cimier d'or gemmé, brise l'armure et la tête et les os, et fait jaillir les deux yeux du païen. Puis, raide de mort à ses pieds le retourne, en lui disant « Drôle, tu osas trop, toi, me toucher à tort ou à raison, qui le saura te tiendra pour un fou. Ah, j'ai fendu le pavillon du corps, l'or, les cristaux en sont tombés à terre. » 15. Roland et sa Durandal. Roland sent bien que la mort le talonne. Par grand effort, il se remet sur pied. Sa vue se perd, sa peau se décolore, il tient quand même. Une roche était là. Voulant briser sa bonne Durandal, Roland 10 fois, de douleur, de colère, à rude coup frappa la roche brune. L'acier grinçait, sans rompre ou s'ébrécher. « Sainte Marie, aidez-moi, » dit Roland. « Ah, Durandal, bonne et si malheureuse, je vais mourir, vous n'aurez plus mes soins. J'ai en souci votre honneur, à cette heure où il me faut me séparer de vous. J'ai avec vous tant gagné de batailles. J'ai avec vous tant conquis de royaumes que tient mon roi à la barbe chenue. Ne tombez pas aux mains de qui peut fuir, vous, si longtemps au point d'un bon vassal. Plus n'en aura de tel la libre France. » Il frappe encore le perron de Sardoine, mais l'acier crie sans rompre ou s'ébrécher. Quand Roland vit l'épée toujours intacte, il se remit à la plaindre en lui-même. « Ah, Durandal, que tu es claire et blanche, que tu reluis et flamboises au soleil. » Le roi était dans les veaux de Maurienne quand Dieu, du ciel, lui manda par son ange de te donner un bon capitaine. Lors, le grand roi te mit à ma ceinture. Je lui conquis par toi Poitou et Maine, je lui conquis et Anjou et Bretagne, je lui conquis Provence et Aquitaine, je lui conquis la libre Normandie, la Lombardie et toute la Romagne, je lui conquis la Pouille, la Calabre et la Bourgogne et la terre d'Espagne, je lui conquis la Bavière et les Flandres et la Hongrie et toute la Pologne. Par toi je fis Charles seigneur et maître, et dans la Saxe et à Constantinople. Je lui conquis Irlande, Écosse, Galles et l'Angleterre adjointe à son domaine. Oh, qu'avec toi j'en ai gagné de terres et de pays que tient le roi chenu. Ah, j'ai pour toi bien pesante douleur, la mort plutôt que de te laisser prendre. Dieu, épargnez telle honte à la France. Il frappe encore sur une roche grise dont il abat un énorme morceau. Sans se briser ni rompre, l'épée grince et rebondit vers le ciel avec force. Roland voit bien qu'il ne peut la briser. Tout doucement, il la plaint en lui-même. Ah, Durandal, que tu es belle et sainte. Ton pommeau d'or contient tant de reliques, dents de Saint-Pierre et sang de Saint-Basile, cheveux qu'avait Monseigneur Saint-Denis, tissus portés par la Vierge Marie. Toi, ô païen, ce ne serait pas juste. Aux chrétiens seuls, il sied de vous servir. Que de pays par vous conquis à Charles, pays qui sont la force et la richesse de l'empereur à la barbe fleurie. Ah, qu'un couard jamais ne vous possède. Bon Seigneur Dieu, notre glorieux Père, ne laissez pas honnir la douce France. 16. La mort de Roland. Roland sent bien que la mort l'envahit et du cerveau lui descend sur le cœur. Il va, courant, se jeter sous un pin. Et là, couché, le flanc sur l'herbe verte, posant sous lui son corps et son épée, vers les païens il tient tourner la tête. S'il fait ainsi, c'est qu'il veut être sûr que le roi Charles et que tous les Français diront « Le preux est mort en conquérant ». Roland répète en frappant sa poitrine « Mea culpa, ma faute, c'est ma faute », et tend son gant au ciel pour ses péchés. Le gage offert témoigne que le preux est repentant et se soumet à Dieu. Roland sent bien que son temps est fini. Face à l'Espagne, haut d'un pic aigu, il est gisant. Sa main bat sa poitrine. Mea culpa, pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi au nom de tes vertus, tous mes péchés, les grands et les petits, que j'ai commis dès lors où je fus né, jusqu'à ce jour où la mort me terrasse. Il tend vers Dieu le gant de sa main droite. Ange du ciel, descendez vers Roland. Près de Roland sont descendus les anges. Le preux Roland est gisant sous un pin et vers l'Espagne a tourné son visage. Il lui revient nombreuses souvenances de tant de lieux dont il fit la conquête, de douce France et de ses chers parents, de son seigneur Charles qui l'a nourri. Bon gré, mal gré, il en pleure et soupire. Mais il le fait sans se mettre en oubli, se confessant, criant à Dieu merci. Vrai Père, ô toi qui ne trompas jamais, qui fit lever d'entre les morts Lazare et qui sauva Daniel des lions, sauve mon âme, ôte-en tout péril pour les péchés que j'ai faits dans ma vie. Il offre à Dieu le gant de sa main droite et de sa main Saint Gabriel le prend. Lors, sur son bras, laissant tomber sa tête, il s'en alla, main jointe, à sa fin. Dieu, près de lui, envoie son chérubin et Saint Michel du péril de la mer. Le chérubin, Michel et Gabriel, au paradis portent l'âme du comte. Portée au ciel sur les ailes des anges, qui vont chantant les éternelles joies devant Jésus et déposer Roland.